Une étoile filante, c'est tout simplement un astre qui est en flottement sur la trajectoire de la Terre. Donc, c'est un caillou, c'est un ou un morceau de métal qui est laissé dans le sillage d'une comète qui est passée préalable. Et donc, lorsque la Terre passe aux mêmes endroits chaque année, puisqu'elle décrit une orbite elliptique, donc à intervalles réguliers, elle repasse aux mêmes endroits, eh bien, par son champ gravitationnel, la Terre va attirer ces corps qui sont en flottement, ces débris laissés par des comètes. Et lorsque ces corps vont rentrer dans l'atmosphère de la Terre, le frottement avec l'air va engendrer cette lumière si caractéristique qui est cette traînée, cette bande, ce trait lumineux qui est une étoile filante. Donc, en fait, l'étoile filante est liée à la présence de corps sur la trajectoire de la Terre et en même temps, cette lumière si caractéristique est induite par le frottement, la friction du corps qui va aller à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde dans l'atmosphère. Un exemple, lorsque vous mettez la main à l'extérieur d'une voiture, lorsque vous roulez à 100 km/h, ce qui fait 27 mètres par seconde, vous constatez avec la main que l'air crée une forte résistance. Eh bien là, on parle de 27 mètres par seconde. Or, ces petits cailloux vont tomber à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Donc là, la friction, la résistance de l'air va amener une combustion et donc une ionisation qui va rendre le comportement de ce caillou très lumineux.
Mais alors, chaque année, c'est la même date, parce qu'en fait, chaque année, on passe dans cette constellation, on va dire, ou comment on peut l'appeler?
Alors, en fait, on passe dans cette essence, je dirais ce nuage de, ça peut être des cailloux, ça peut être du fer, ce sont des résidus de comètes qui sont laissés dans le sillage de la comète. Et en fait, les Perséides, pourquoi ça s'appelle les Perséides? Parce que l'endroit du ciel d'où viennent ces étoiles filantes s'appelle la constellation de Persée. Donc, si vous tracez des lignes droites sur toutes les trajectoires de toutes les étoiles filantes que vous voyez, toutes celles-ci vont converger vers la constellation de Persée, qui est en fait l'endroit d'où viennent les étoiles filantes. C'est pour ça qu'on l'a appelé les Perséides. À une autre période de l'année, vous avez aussi des étoiles filantes qui donnent l'impression de venir de la constellation d'Orion. On va appeler ça les Orionides. Vous avez la constellation de Léo, du Lion, qui est en latin Léo. Eh bien, quand les étoiles filantes vont donner l'impression de venir de la constellation du Lion, on va appeler ça des Léonides. Donc, à chaque constellation, à chaque endroit de provenance, vous allez avoir des étoiles filantes. Et pour chaque type d'étoile filante, Perséide, Orionide, Léonide, eh bien, vous avez des dates qui correspondent à une position où la Terre vient systématiquement se repositionner chaque année, où justement, il y a une grande densité de cailloux, de morceaux de métaux en flottement sur l'orbite terrestre, qui explique pourquoi c'est récurrent et ça revient chaque année. Et les Perséides, pourquoi elles sont populaires? Parce qu'elles ont lieu durant l'été, et puis qu'elles ont aussi, en termes d'intensité, elles peuvent monter jusqu'à plus de 100-120 étoiles filantes par heure. C'est un des pics, je dirais, parmi toutes les étoiles filantes qu'on a tout au long de l'année, les Léonides, les Orionides, etc. Bien, c'est elles qui ont un des plus hauts niveaux de nombre d'étoiles filantes par heure.
On verra ces 120 par heure ou on va seulement en voir une partie, un fragment?
Tout dépend du niveau de pollution lumineuse que vous avez, parce que si vous êtes en ville, bien entendu, vous n'allez pas en voir beaucoup, parce que celles qui sont extrêmement faiblement lumineuses, vous ne pourrez pas les voir, puisqu'elles seront noyées dans la lumière des villes. Par contre, si vous allez dans un endroit extrêmement obscur, vous allez en voir, par contre, beaucoup plus, et ça, je l'ai déjà constaté dans des endroits très faiblement éclairés, enfin très obscurs, là, vous en avez quasiment 2-3 par minute. Et il y a eu des années, dans l'histoire de l'astronomie, mais au XXe siècle, il y a eu même une année, je crois qu'il y en a eu jusqu'à 2000 par heure.
Mais donc, si je comprends bien, la Terre, dans sa révolution, parce qu'elle elle tourne autour du Soleil, et elle fait le ménage, en fait, quelque sorte.
Oui, c'est une façon, comment dire, très imagée, effectivement. En fait, la Terre va réoccuper la même position chaque année autour du Soleil, donc on va se retrouver au même endroit que l'an passé autour du Soleil, et donc les débris de comètes qui se trouvent justement dans ce sillage, bien, la Terre va les attirer, puis effectivement, la Terre va se comporter comme un aspirateur, parce que d'année en année, les débris qui sont en flottement vont se trouver de plus en plus aspirés, il y en aura de moins en moins, à moins que la comète repasse et redépose justement les débris.
Parce que les comètes aussi ont leur révolution, évidemment.
Les comètes ont leur révolution. La comète de Halley, qui est passée dans les années 80 au siècle dernier, passe à peu près tous les 80 ans. Donc, effectivement, quand une comète repasse, elle redépose dans son sillage des débris. Donc, mécaniquement, lorsque la Terre va passer dans ce nuage de débris, on va avoir de nouveau un essaim d'étoiles filantes. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les comètes, on en découvre assez régulièrement. Pas toutes ne traversent l'orbite de la Terre. Donc, forcément, dans ce genre de cas, on n'a pas d'étoiles filantes. Par contre, effectivement, si elles passent à un endroit de l'orbite terrestre où la Terre se trouve pas au moment où elle se passe, elle va laisser des débris et lorsque la Terre va repasser à cet endroit-là, elle va avoir cette pluie d'étoiles filantes si caractéristique.
Et donc, vous disiez, ce sont des cailloux et des bouts de fer. On ne sait pas trop quelles sont les matières qui sont en combustion.
C'est souvent rocheux, c'est souvent métallique, principalement constitué de fer quand c'est métallique, rocheux, puisque en fait la formation de la Terre est une agrégation de météorites qui se sont collisionnées et qui ont plus ou moins, avec la durée, constitué un embryon de proto-Terre. Et puis, la proto-Terre étant de plus en plus grosse, elle a un champ gravitationnel de plus en plus grand, donc elle va attirer, lors de la formation du système solaire, des cailloux de plus en plus loin. Et au fur et à mesure que ces cailloux vont tomber de plus en plus sur la surface de la Terre va augmenter en diamètre. L'espace qui se trouve autour va se vider de corps en flottement. Et donc, c'est ce qui, lorsque vous avez un nuage proto-solaire, c'est-à-dire un nuage qui forme un système solaire, où vous avez au cœur la contraction du gaz qui va former l'étoile et qui va donc, avec l'hydrogène, amorcer la fusion nucléaire, et donc l'étoile se met à briller. Et autour, lorsque vous avez des débris qui sont des cailloux, qui sont des morceaux de métaux, qui vont s'agréger par gravitation, vont constituer les planètes. Et donc la Terre, en fait, est une poussière d'étoiles, puisque ces morceaux de cailloux, ces morceaux de métaux ont été constitués au préalable dans des étoiles qui sont arrivées en fin de vie, qui ont explosé et qui ont disséminé ces éléments dans l'espace sous forme de cailloux, de fragments, qui ensuite vont se réagréger pour former des planètes, des comètes, etc.
Encore une question. Au fond, tant mieux que ces objets entrent en combustion, parce que sinon, on pourrait les prendre sur la tête, au fond.
Alors, effectivement, tout dépend de la taille des objets, parce que lorsqu'ils font, on va dire, 500 grammes, 1 kg, la vitesse de friction fait qu'ils partent en poudre, ils explosent heureusement, d'ailleurs, nous avons une atmosphère. Cette atmosphère nous protège, parce que si nous n'avions pas d'atmosphère, ces astres arriveraient de but en blanc à la surface de la Terre. Donc, on aurait vraiment des impacts. L'atmosphère, en fait, crée un bouclier qui nous protège. Par contre, lorsque les météorites sont beaucoup plus gros et ne sont pas détruits par l'atmosphère, eh bien, en Antarctique, lorsque vous allez en Antarctique, vous allez trouver souvent, sur la glace, des gros cailloux noirs posés à même la glace, qui sont en fait des débris d'étoiles filantes qui n'ont pas pu se désagréger puisqu'ils étaient trop gros en termes de masse critique. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la Terre, ramassant tous ces météorites, prend plusieurs tonnes par année. Donc la Terre grossit en termes de poids. Et si elle grossit en termes de poids, si vous avez l'image du patineur qui fait du patinage artistique, si vous avez les bras très rapprochés du corps, vous allez tourner très vite. Si les bras s'éloignent, il va tourner moins vite. Ce qui veut dire que plus la Terre va s'alourdir, plus elle va ralentir dans sa relation. Et au travers des siècles, eh bien, elle ne tournera plus en 24 heures, mais sa durée va s'allonger d'année en année.
Donc ça veut dire que bientôt, on aura des journées de 30 heures, quelque chose comme ça?
C'est tout à fait possible. Bon, ce n'est pas à l'horizon d'une vie humaine, puisqu'on rajoute de temps en temps une seconde sur les horloges pour tenir compte de cette variation de la rotation de la Terre. Donc une seconde, quelques heures. Une année, ou peut-être tous les 10 ans, je ne sais pas exactement, mais c'est très faible. Si vous voulez, à l'échelle d'une vie humaine, c'est insensible. Par contre, si vous regardez sur des millénaires ou des milliers d'années, effectivement, la durée du jour va changer.
Très bien. Une dernière question. Où est-ce qu'on peut aller à Genève pour bien observer ces étoiles? Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées ou rien? Ou est-ce que simplement on s'y rend?
Sur le canton de Genève, il y a plusieurs sites qui sont très propices pour observer les étoiles. Déjà, c'est des endroits très faiblement éclairés, donc il faut sortir des villes, clairement. Le signal de Bernay est un endroit qui est en hauteur, qui est certes un petit peu entouré de lumière, mais qui présente l'avantage d'avoir une belle ouverture sur le ciel. Et toutes les parties du canton qui vont, je dirais, le secteur Chancy, tous les villages en dehors de, je dirais, l'agglomération, vraiment là où c'est urbain, sont des endroits à privilégier avec une très très grande ouverture sur le ciel et également avoir un transat parce que c'est en position allongée qu'on embrasse le plus de surface de ciel et qui nous permet également d'apprécier la beauté du ciel étoilé.
Et donc on peut les compter quoi si on va en famille par exemple?
On peut les compter. S'il y en a 120 par heure, ça fait 2 par minute. Si on n'a pas beaucoup de lumière de Genève, on peut facilement en voir une par heure, mais il faut être attentif, il faut regarder, il faut fixer le ciel et être très patient.
Parce qu'au fond, il y a une portée philosophique à regarder les étoiles, vous pensez? Ça nous rappelle notre condition humaine?
Ah, c'est philosophique, c'est profondément structurant, puisque je pense que le « il était une fois » a été certainement créé sous les étoiles. Dans les civilisations anciennes, nous n'avions pas d'éclairage, donc tout ce qui était les contes, les histoires que nous racontions à la tombée de la nuit, toute la transmission de la culture qui était principalement orale, se faisait principalement à la tombée de la nuit. On raconte toujours des contes aux enfants avant qu'ils dorment. Donc il y a toute cette dimension philosophique et aussi, donc déjà qui est culturelle, mais il y a aussi cette dimension aussi de lien que nous avons avec la nature, parce que quand on regarde les étoiles, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les réacteurs qui fabriquent les éléments qui composent notre corps, tels que le carbone, l'oxygène, qui ont été fabriqués dans des étoiles. Et lorsque l'on regarde finalement les étoiles, on regarde le spectacle de la fabrication des éléments qui composent la Terre, qui composent nous-mêmes. Donc, on regarde nos racines cosmiques, finalement. Donc, ne plus voir, je dirais, le ciel étoilé, c'est comme pour un généalogiste, lui effacer les arbres généalogiques au-dessus de ses grands-parents.
Et alors, est-ce qu'on peut faire un vœu? Ça vient d'où, cette tradition, au fond, de faire un vœu quand on voit une étoile filante?
Oh, je pense. Alors, l'histoire précise, je ne la connais pas. Je pense que c'est vrai que c'est comme les éclipses. Tous les phénomènes qui ont lieu de façon non prévisible, dans la croyance populaire, ont souvent amené l'humain à y voir une trace ou un geste d'une autre dimension. Et donc, c'est quelque part se dire, voilà, je vois un phénomène qui est inhabituel et je l'associe à un vœu. Mais encore une fois, ça, c'est mon explication. L'histoire en elle-même est à rechercher.
Merci, Eric Ashgar. Est-ce que vous auriez par hasard...